Bonjour à toutes et à tous, ici Claude Black-Belair. À travers ce modeste podcast, je voudrais raconter la petite histoire de ma vie. Une histoire qui a commencé 3 ans après la guerre 39-45. Là, je suis né le 21 septembre 48 à la clinique de l'Hôtel Dieu à Paris 4e, face à la cathédrale Notre-Dame qui avait encore sa flèche. Après ma naissance, mes parents et moi, nous avons habité quelques années chez mes grands-parents paternels, boulevard Raspail, à Paris, au 4e étage d'un bel appartement. Un seul souvenir. Là, je jetais mes jouets par-dessus le balcon, sur la rue, aux grandes dames des passants qui pouvaient les recevoir sur la tête. Et à cette époque-là, je vous prie de croire que les jouets des jeunes enfants pouvaient peser très lourd. Si nous habitions chez ma grand-mère, mes parents terminaient leurs études de médecine et n'avaient pas beaucoup d'argent. Ce n'est qu'un peu plus tard, en 1951, que nous avons aménagé au 12 boulevard de Port-Royal. Là, mes parents avaient installé leur cabinet médical. Mon père s'est spécialisé en pneumophtysiologie et ma mère adopta la gynécologie. Quant à moi, j'ai démarré ma scolarité chez les Bonnes Sœurs, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, dans une école maternelle où les sœurs avaient encore de grandes calottes blanches sur la tête. Peu de souvenirs de cette époque, hormis une tortue à qui je donnais des feuilles de salade à manger dans la cour de récréation. Encore fils unique, j'avais ma chambre boulevard de Port-Royal, une chambre sur cour, sans beaucoup de lumière, au premier étage. Une chambre un peu triste avec un coucou suisse qu'il fallait remonter très souvent. Un énorme chauffage à accumulation sur lequel je me brûlais les mains. J'étais un enfant très sage, m'a-t-on dit, coincé dans un grand appartement où je ne pouvais pas bouger. Priorité était donnée aux malades de mes parents qui circulaient du salon, qui était la salle d'attente, jusqu'à leur bureau respectif. Pour pisser, je devais demander l'autorisation à mes parents qui avaient donné la priorité à leur vie professionnelle. Je me sentais un peu laissé pour compte. Je n'ai que peu de souvenirs de cette période-là, si peut-être un jour où mon père, de retour d'un congrès médical, m'a rapporté un nuage dans une grande bouteille, un nuage qu'il avait capturé dans l'avion en passant la main à travers la carlingue. Je n'avais pas le droit d'ouvrir la bouteille sous peine de perdre mon nuage. De ce voyage, nous n'avons gardé que les poupées russes, que j'ai retrouvées un peu plus tard dans une armoire. Souvent le soir, mes parents allaient au spectacle et me laissaient seul dans ce grand appartement où je pouvais enfin me promener et aller découvrir cet espace qui m'était interdit dans la journée. Tous les étés, mes grands-parents maternels m'emmenaient en Franche-Comté, dans leur grande maison de Boult, qui était un petit village à côté de Besançon. Pour y accéder, nous prenions le train à vapeur, Gare de l'Est, et j'étais très impressionné par cette grosse locomotive à vapeur très bruyante. Là-bas, dans ce joli village, je découvrais la vie à la campagne. J'y avais ma chambre, avec sa couleur verte un peu pisseuse. Je passais mon temps à nourrir les poules et les lapins. Souvent, le dimanche, ma grand-mère tuait l'un d'eux pour agrémenter le repas dominical. N'étant pas très assidu à l'école, mes grands-parents continuaient de m'apprendre à écrire avec une plume sergent-major, de l'encre et un buvard sur un joli cahier bleu avec de belles lignes roses. Là-bas, je découvrais et apprenais l'histoire de France et la géographie. Là-bas, j'aidais à la cueillette des fruits, à la récolte du miel dans les grands ruchers qui jouxtaient la maison. J'étais heureux dans cet univers champêtre que je trouvais bien plus formateur que mes bonnes sœurs parisiennes. Et puis là, on s'occupait de moi, et je découvrais la vraie vie. Tous les soirs, j'allais chercher le lait à la ferme d'à côté. Au pis de la vache, la fermière me faisait goûter son breuvage tiède que je ramenais dans un pot à lait. Transvasé dans une casserole, ma grand-mère le faisait bouillir sur sa cuisinière à bois. Et quelquefois, il pouvait déborder. Après cuisson, avec une petite cuillère, ma grand-mère récupérait la crème qui lui permettait de nous faire un bon gâteau. La cuisinière, en fonte, produisait de l'eau chaude. Et une fois par semaine, pour faire ma toilette, ma grand-mère me faisait monter tout nu sur la pierre à évier de la cuisine. Et là, devant tout le village qui passait devant nos fenêtres, elle me savonnait, tandis que j'avais les fesses à l'air. Il faut dire que nous n'avions pas d'eau courante, ni de salle de bain. Chaque jour, pour faire sa petite toilette, chacun montait un brodeau dans sa chambre. Quant au WC, il se trouvait dans le jardin. Nous avions des souris, et j'étais préposé à la mise en place des tapettes avec un bout de fromage. J'aimais bien cette maison, avec ses trois horloges franc-comtoises qui battaient la mesure, dans cette demeure accueillante où j'ai passé du bon temps. J'adorais mes grands-parents, qui m'appréciaient beaucoup en retour. Mon grand-père avait été médecin colonel et avait dirigé le Val-de-Grâce, cet hôpital militaire parisien. Ma grand-mère, après des études d'infirmière, prit soin des grands blessés sur les champs de bataille des guerres 14-18 et 39-45. Plus tard, j'ai retrouvé sur des plaques photographiques couleur, en vert, ma grand-mère posant avec un joli chapeau à fleurs, appuyé sur la margelle d'un puits. Sur certaines plaques photographiques, je voyais mon grand-père donnant des cours d'anatomie à ses élèves médecins sur la carcasse d'un cheval mort qui venait de mourir sur un champ de bataille. La guerre avait laissé pas mal de traces chez mes aïeux. Partout dans la maison, on retrouvait des masques à gaz, des médailles militaires, des sabres et autres uniformes de soldats. Sur certaines photos, on peut encore me voir affublé d'un immense casque sur ma tête, sur ma petite tête d'enfant. Là-bas, pendant mes vacances, un bon mois chaque année, mes vacances étaient émaillées de mes souvenirs de petit garçon. Je me rappelle ce jour où, assis sur une petite planche à roulettes, descendant grand train la côte devant chez mes grands-parents, j'ai mal négocié un virage et me suis retrouvé torse nu dans les orties. Le corps couvert de piqûres, j'ai mis un point d'honneur à pas me plaindre auprès de mes grands-parents et qui me badigeonnaient le torse et les jambes avec du vinaigre. Je me souviens encore une fois où, courant autour de la table de la cuisine, j'ai trébuché et me suis mordu la langue qui saignait sans arrêter. Ce jour-là, mon grand-père prit les choses en main pour arrêter les saignements et apaiser ma douleur. Encore aujourd'hui, j'ai un gros trou dans ce corps charnu de ma bouche. Que dire encore de ce poulailler désaffecté que j'ai aménagé en cabane, dans laquelle je faisais des soupes de limaces et d'escargots assortis de quelques grains de cassis et de groseille. Tandis que je grandissais, mon grand-père me confectionnait à partir de branches de noisetier un arc et des flèches à ma taille, et c'est là peut-être que j'ai pris le goût aux armes en tout genre. Mais de cela nous reparlerons. Dans les affaires de mon père, bien plus tard, j'ai retrouvé une lettre de mes grands-parents qui ne me donnait pas assez à manger. Et les ans passant, mes aïeux mangeaient de moins en moins, et moi, grandissant, j'avais du mal à aller au lit, le ventre presque vide. Et c'est à partir de ce moment-là que mes parents n'ont plus fait appel à mes grands-parents pour s'occuper de moi pendant l'été de mes vacances. Nous aurons la suite au prochain épisode.